siamo stufe della pubblicità che deforma la nostra realtà. Questa moderna schiavitù da oggi in poi non l'accettiamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttane o sante, venir classificate. Basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità.
Il y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès, c'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
C'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en CDJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas.
Bonsoir a toutes et à tous, on est... ce soir sur Fréquence Paris Pluriel pour l'émission Langue de Fronde avec tout plein de monde dans le studio. On va faire une émission aujourd'hui autour d'un livre qui s'appelle Ne crois pas avoir de droit, qui a été écrit par un collectif, la librairie des femmes de Milan, en 1987, et qui a été traduit et publié aujourd'hui par un collectif aux éditions La Tempête. Le livre sort le 1er mars prochain et nous avons le plaisir de recevoir des personnes qui ont contribué à sa traduction, à sa relecture aujourd'hui dans les studios. Ce livre nous donne à voir la pensée de la différence sexuelle telle qu'elle a été formulée et vécue en Italie par des femmes au cours des années 70-80. Et c'est autour de cette pensée de la différence sexuelle qu'on va un peu discuter aujourd'hui. Ce livre sort à un moment un peu particulier dont on avait aussi envie de parler, c'est que donc le 16 février prochain, un livre a été traduit par un collectif. Le livre s'appelle La Horde d'or, Italie 1968-1977, la grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle, un livre de Nanni Balestrini et Primo Moroni. Et Clarisse aura l'occasion de vous reparler de ce livre tout à l'heure. Avant qu'on s'attaque donc à la question pour laquelle on est là aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour de table et que vous présentiez les unes les autres.
Bonjour, alors moi je m'appelle Gabrielle, et alors j'ai travaillé autour de ce livre beaucoup du côté de la maison d'édition pour la publication, et puis j'ai aussi écrit la préface avec les traductrices, et puis relu aussi beaucoup beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Anaïs. Moi j'ai participé à la relecture du texte traduit et j'ai tout de suite été hyper enthousiasmée par le texte.
Bonjour, moi je m'appelle Chiara et j'ai participé moi aussi au moment de la relecture du texte et j'ai connu les filles, les traductrices pendant qu'elles étaient en train de traduire. Moi, je lis l'italien et je suis italienne. Et j'avais pas lu les textes en italien et c'était la manière où j'ai découvert les textes.
Bonjour Pauline, moi je parle pas très bien près du micro, je vais essayer de m'améliorer. On reçoit aussi ce soir Roger qui vient justement nourrir le débat autour de ce livre et qui est chercheur en sciences sociales, spécialiste des questions transgenres et autres. Roger.
Merci pour la présentation. Je sais pas si je suis spécialiste de quelque chose sûrement.
Sûrement, je pense que je suis invitée ici en tant que, je dirais, activiste transféministe italien, donc en tant que personne qui fait un peu partie de, une partie de ce féminisme qui est un peu, se sent un peu relationnée avec le féminisme de la différence en Italie, je dirais.
Et autour du micro, il y a aussi Léa qui a présenté l'émission et qui anime aujourd'hui Langue de Fronde. Moi, c'est Kla. Et en technique, Théo, qui va être rejointe par Maïk. Et puis Cynthia et Marie vont nous rejoindre tranquillement. Et Céline aussi. Voilà, il va y avoir du monde petit à petit dans le studio et en régie. Et pour continuer et pour commencer, on va écouter juste des petits sons d'archives sonores de ces années-là. Donc, en l'occurrence, les années 70, des petits sons issus de manifestations.
La polizia non ci fa paura, Carretta, perché noi andremo sempre, sempre, sempre a occupare finché non ci danno la casa.
Et voilà, c'était des archives sonores du Collettivo dei Femministi di Cinema qui ont lieu plutôt à Rome. Et donc c'était plutôt autour de l'avortement, du rapport avec la police ne nous fait pas peur, et notamment autour de l'occupation de logements qui ont lieu dans ces années-là. Et pour revenir sur le titre dont parlait Léa tout à l'heure, La Horde d'Or, qui sort cette semaine après 8 ans de travail sur la traduction, il retrace aussi, donc de 1968 à 1977, des années houleuses en Italie, dont on parle parfois et parfois peu, je pense par fascination ou par peur, un mélange des deux. En tout cas, un moment qui a ébranlé à la fois l'Italie et l'Europe avec des dimensions multiples sociales qui recouvrent à la fois l'école, l'université, l'usine, qui prennent place dans la rue ou à la maison et jusque dans les corps. Et c'est un moment vraiment de masse avec des affrontements intenses et à la fois avec les pouvoirs, les institutions, à la fois avec des mouvements fascistes très forts dans ces années-là. Et voilà. Et dans ce projet, donc la Horde d'Or, qui aboutit, dont la traduction aboutit aujourd'hui, a commencé en 1987, qui est l'année de parution du livre dont on parle aujourd'hui, donc Ne crois pas avoir de droit, des éditions donc de la librairie des femmes de Milan. Et ça nous semblait un drôle de hasard que ces deux projets de traduction aboutissent en même temps sur un retour historique sur ces années-là italiennes et qui sont des années dont on peut, je pense, se nourrir aujourd'hui pour continuer à réfléchir et à penser ensemble les choses. Alors avec intérêt, parfois distance, critique et un mélange des deux, en tout cas pour s'aider à réfléchir ensemble. Et voilà. Voilà pour quelques mots très rapides de contexte. Un contexte qui s'étend sur un territoire très différent en Italie. Alors là, aujourd'hui, avec ce livre-là, ça sera plutôt celui de Milan, parce que donc ce sont des femmes de Milan. Et Milan, par exemple, c'est pas le sud de l'Italie, c'est pas la campagne, c'est le nord industriel, c'est des choses aussi qui comptent dans ces points de vue-là dont on parlera aujourd'hui. Et voilà, vous entendrez aussi différentes musiques dans différentes langues, c'est-à-dire toujours en italien, mais qui viennent de Rome ou de Padoue ou plus du sud. Et c'est une diversité, mais toujours très située historiquement dans ces années-là, avec des revendications diverses. Mais voilà, donc on a choisi des musiques qui font aussi trace d'histoire. Donc parfois, on se distancie aussi des paroles, du contenu, ou en tout cas, c'est situé dans un moment qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Voilà pour le contexte, un contexte dont on parlera pas forcément directement aujourd'hui, puisque ce livre « Ne crois pas avoir de doigts » ne fait pas forcément référence directement à ce contexte. On met des extraits sonores de manifestations auxquels les personnes qui écrivent, les personnes qui écrivent le livre ne font pas référence et ne se positionnent pas politiquement dans ces manifestations-là, mais ça nous semblait intéressant de faire ressortir quand même ce contexte historique. Et voilà, donc on parlera maintenant de, derrière un contexte de lutte, plutôt de paroles et de textes, d'un effort de réflexion écrit autour de tout ça. Et voilà, et pour nous, ces années-là, c'est aussi des années où émergent les maisons d'édition et où on réfléchit sur aussi comment on met en œuvre une parole qui soit propre, qu'on puisse revendiquer. Des radios aussi émergent à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on est à la radio et c'est aussi une façon de prendre la parole et de diffuser ce qu'on a envie de dire. En tout cas, là, c'est une maison d'édition, donc celle des Femmes de Milan. Et voilà, et puis maintenant, à vous.
Alors justement, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce collectif de la librairie des Femmes de Milan et comment, avec les éditions La Tempête, vous avez fait la rencontre de ce texte? Qu'est-ce qui vous a amené à publier ce texte aujourd'hui?
Je pense que là, tu parlais beaucoup du contexte de l'autonomie en Italie. Je pense que paradoxalement, même si en effet elles n'en parlent pas beaucoup dans le livre, c'est quand même, du moins je ne sais pas si je pourrais parler pour tout le monde, mais pour une grande partie, ce qui nous a aussi rapprochés de ce livre, de se rapprocher de ce contexte, c'est une position politique qui est quand même très forte, celle de l'autonomie. Et du coup, en s'intéressant à l'autonomie, de croiser ces femmes qui ont provoqué, je pense, chez beaucoup d'entre nous, un certain enthousiasme sur leur capacité à tenir une parole forte, à chercher de la force entre elles aussi à ce moment-là et à l'écart des milieux plus masculins. Voilà, je pense que...
Est-ce que vous pourriez... Peut-être un peu, on a eu déjà, Clarisse expliquait justement qu'il y avait cette idée de faire émerger des textes, de faire émerger une parole à travers ce collectif de la librairie des femmes de Milan. Est-ce que vous sauriez expliquer un peu dans les grandes lignes comment s'est construit ce texte-là et de quoi il parle dans les grandes lignes pour introduire un peu l'émission?
Alors c'est un récit rétrospectif en fait. Elle parle... a posteriori des expériences qu'elles ont eues, donc de diverses expériences que ces femmes de Milan, donc qui se sont regroupées sous le nom du collectif de la librairie des femmes de Milan, entre les années 1965 et 1985. Et donc dans ce livre, Ne crois pas avoir de droit, elle raconte de manière très concrète l'émergence d'une pensée de la différence, donc c'est cette idée qui leur sont venues au travers de différentes expériences. Et cette pensée de la différence, qui prend appui simultanément sur une idée de la différence sexuelle, donc par rapport aux hommes, c'est-à-dire qu'elles ne revendiquent pas forcément une égalité au niveau de la loi. D'ailleurs, elles ont même une position plutôt anti-légaliste. Et donc avec l'idée que l'égalité qui serait garantie par des droits, c'est pas forcément la priorité de leur pensée.
Ce qui se traduit d'ailleurs dans le titre « Ne crois pas avoir
exactement
de droits ».
Oui, mais... Donc non seulement elles ne revendiquent pas l'égalité par rapport aux hommes au niveau de la loi, mais en plus elles insistent aussi sur une différence entre les femmes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas penser la féminité ou une pensée de la différence féminine qui serait la même pour tout le monde, mais au contraire à valoriser les expériences propres à chaque femme. Et pour ça, dans leur récit, elles évoquent beaucoup de pratiques relationnel dont le but est de revaloriser les pratiques entre femmes et les différents rapports qu'il peut y avoir, à la fois de solidarité, mais aussi parfois, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec cette idée de la médiation ou de l'affidamento, cette idée que c'est pas forcément des rapports égaux qui sont les plus à même de valoriser ce qu'il peut y avoir entre les femmes, mais aussi parfois une sorte de verticalité qui pourrait amener à d'autres types de rapports qui sont aussi enrichissants pour les femmes.
Et pour vous, vous l'expliquiez déjà un petit peu dans la préface, mais pour nos auditrices et nos auditeurs, ce serait peut-être chouette aussi d'avoir votre point de vue sur en quoi sa publication aujourd'hui, sachant qu'on ne peut pas lire ce texte avec les mêmes lunettes que celles de l'époque, en quoi le fait de traduire ce texte et de le faire connaître aujourd'hui, c'est pertinent pour le féminisme, pour les luttes, pour vous-même, pour, à titre plus personnel peut-être.
Alors à titre personnel, je ne sais pas. En tout cas, je pense que pour le féminisme, il y a un vrai enjeu à traduire ça aujourd'hui, dans le sens où il y a eu en France une pensée de la différence qui s'est aussi diffusée, notamment à travers Psychanalyse et Politique, le groupe du MLF qui était réuni autour d'Antoinette Fouque. Et j'ai comme un peu l'impression que la pensée de la différence italienne est passée à la trappe à côté de la différence, de la pensée de la différence française. La pensée de la différence italienne n'a pas du tout été reçue en France. Et on peut par exemple comparer au niveau des traductions où ce livre il a été traduit très très rapidement en anglais, en allemand, en italien. Et en français, ça n'a jamais été le cas. Et du coup, il y a un peu l'idée de peut-être faire revivre quelque chose qui n'a même pas eu la chance d'être vécu ici en France. Et on en reparlera aussi plus tard, mais je pense que c'est à ce point-là important, notamment parce qu'il y avait quand même des grosses divergences avec Psychanalyse et Politique, et qu'il y a un véritable apport de la pensée de la différence italienne par rapport à celle française.
Oui, moi, j'ai l'envie de répondre à ta question sur les registres du personnel, comme tu avais dit, justement. Parce que moi, j'aime bien de dire que j'assume que si je me suis à un certain moment de ma vie approchée et intéressée au féminisme, c'est à partir des désirs et des besoins strictement personnels. Et même si après ça a pris heureusement une dimension qui m'a dépassée aussi. Et je suis tombée sur des textes qui m'ont aidée dans cette envie de suivre mes désirs et mes besoins. Et tout simplement, en 2016, j'ai lu ce texte et ça a été important pour moi. Et c'est pour ça que je pense qu'en 2017, le fait de permettre sa lecture à des filles, à des mecs aussi français, c'est cool.
Et puis, il y a quelque chose, moi, qui m'a marqué dans la préface. Cette idée que, du coup, je vais citer un passage de la préface que je trouve assez chouette, justement, dans ce rapport un peu personnel que vous avez avec le féminisme et qui, moi, m'a pas mal parlé aussi. Cette idée que, dans ce texte, elles accordent davantage d'importance à l'enrichissement de leur propre univers symbolique qu'à l'énumération des oppressions masculines. Et ce fait-là contribue également à ce sentiment de liberté. Nous nous sommes reconnus dans le besoin qu'elles décrivent de tracer leur propre chemin, plutôt que de souligner toujours les éléments qui le rendent plus difficile à tracer. Et je trouvais ça assez, assez chouette, et on aura l'occasion d'en revenir dans l'émission, de voir quel est justement ce chemin qu'elles s'efforcent de tracer, plutôt que toujours voir, par exemple, dans le féminisme, quelque chose qui fait état d'oppression et desquelles on n'arrive pas à se saisir, qu'on n'arrive pas à dépasser. Là, il s'agit de se donner de la force et d'essayer de faire quelque chose ensemble dans le cadre du collectif des Femmes de Milan, par exemple.
Et ça résonne parfaitement avec justement l'autonomie, même prise pas comme un moment politique et avec un contenu politique précis, mais comme démarche de vie, de pensée, quoi. Et l'effet d'une signification autonome, de se signifier elle-même, ou nous-mêmes.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avec un son que Claire, tu as choisi.
On va en fait commencer la pause musicale par encore quelques mini-extraits de manifestations, d'archives donc sonores. Qui encore une fois ne sont pas directement liés à cette expérience du livre, mais qui parlent sur cette époque-là.
Non vogliamo i servizi all'italico per l'uomo, l'italico per l'uomo. Perché io se parlo la schiaffo dentro se lei continua a dire così. Ognuno porta le conseguenze della professione che si scelta. Ognuno porta le conseguenze della professione che si scelta. Sei un poliziotto.
Per cortesia, lasciale stare, per cortesia.
Poliziotti, polizia fascista, polizia fascista, polizia fascista, polizia fascista, poliziotti servi dei padroni, poliziotti servi dei padroni, poliziotti.
per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli, se benché siamo donne paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. Cromiri col padrone, cromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione, cromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo. Abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Langue de Fronde. Sur 106.3 FM, pardon, je buvais un peu d'eau. Donc on continue ce soir autour du livre « Ne crois pas avoir de droit » de la librairie des femmes de Milan. Et on va parler maintenant un peu plus en détail de ce que c'est cette pensée de la différence sexuelle, comment elle émerge. Donc le livre, je rappelle, il est sorti en 1987, mais la librairie des femmes de Milan existe depuis une dizaine d'années déjà, si je me trompe pas. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous situer un peu comment cette pensée a émergé, comment elle s'est construite au fil de la période des années 70 et contextualiser un peu cette pensée-là par rapport au féminisme et aux différentes luttes de l'époque.
Oui, avec plaisir. Je vais essayer à tracer des lignes. Parce que il s'est passé énormément de trucs à ce moment-là, et heureusement. Et en fait, j'aime bien de partir un peu avant les décennies 70, parce que parfois on a l'impression que le féminisme en Italie, il naît peut-être même exactement en 1970, et lorsque des luttes des femmes avaient lieu déjà plus que 10 ans avant. Déjà dans l'après-guerre et dans les années, au début des années 60, il y avait des organisations qui étaient fédérées au parti de la gauche historique, parfois on dit comme ça. Et c'était l'UDI, l'Union des femmes italiennes, qui était une organisation née au sein du PCI, du Parti communiste, et le CIF, né plutôt au sein de la démocratie chrétienne, qui amenait déjà pendant les années de la résistance un discours pour l'intégration des femmes dans les milieux productifs et au niveau politique. À un certain moment, il y a celui qui appelait parfois comme un antécédent du féminisme de la différence, c'est-à-dire l'expérience du groupe d'Emmaou. C'est un groupe qui, depuis son nom, lutte pour une démystification de l'autoritarisme patriarcal. Et souvent, ça, c'est indiqué comme ce qui a ouvert un peu la voie au pensée de la différence, même si le concept de différence n'était pas encore formulé. Le groupe de Mahou, justement, va contre le discours d'intégration proposé par les groupes fédérés à la gauche, au parti de la gauche historique, en disant que, en fait, c'était un discours hypocrite qui aboutissait à neutraliser en fait les femmes tout en les englobant dans un ordre social masculin. Et le groupe des Mahou fait un discours qui, dans un sens, souhaite à l'effondrement des rôles sociaux définis, et dans un autre sens parle de valeurs féminines auxquelles il faudrait donner une résonance et une valeur qui, à l'heure actuelle, n'était pas là. Et dans ce sens-là, je crois on voit s'ouvrir la voie à la pensée de la différence, de laquelle on parle en partant de rivolta femminile. Rivolta femminile, c'est un collectif animé, si on peut dire ça, par Carla Lonzi. Et le collectif né à Milan en 70. Et c'est là qu'on formule justement le concept de différence, pas exactement comme on l'entend chez les femmes de Milan. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà une démarche d'écriture qui est très très différente entre Carla Lonzi et Rivolta Femminile. Et là, il faut savoir que souvent, les textes qui sont signés au nom de Rivolta Femminile, en fait, étaient écrits par Carla Lonzi. Et la manière où elle travaille avec la parole, les femmes de Milan. Carla Lonzi, elle et ses potes de Rivolta, elles écrivaient d'une manière indisciplinée par parti pris. Et du coup, il y a des suggestions dans les textes qui sortent parfois de nulle part. Et on parle d'une manière très, très forte de cette idée de différence qui, néanmoins, n'est jamais ciblée et définie d'une manière ponctuelle. Mais ça, c'est bien sûr un choix. Et moi, j'ai apprécié un article que j'ai lu sur Vacarme de Eleonora Selva Tico, qui fait un commentaire très intéressant de Vai pure, c'est le dernier bouquin de Carla Lonzi, et c'est un dialogue avec son compagnon. Eleonora Selva Tico reprend un moment où Carla Lonzi parle d'espèce féminine et d'une présumée appartenance, d'un sentiment d'appartenance à une espèce féminine. Et Eleonora Selva Tico, en commentant ça, parle d'une essentialisation stratégique. J'ai dit ça parce que justement, souvent, et pas à tort, la pensée de Carla Lonzi, pas à tort à mon avis, la pensée de Carla Lonzi est liée à travers... en l'accusant d'essentialisme, d'essentialisation. Et je trouve intéressant l'idée d'une essentialisation stratégique. Dans quel sens? Dans le sens que c'est comme, moi, en lisant ça, j'ai pensé que c'était un moment historique où on voulait créer un changement, je vais pas dire des gros mots. disons, pour. Pour longtemps, il y a eu une histoire je vais caricaturiser un peu pour énormément de temps, il y a eu une histoire qui a systématiquement négligé les femmes. Et alors, au moment où les femmes commencent à parler, elles ont besoin de faire un geste qui est autant fort que l'oppression qu'elles ont vécue. C'est dans ce sens-là que je vois cette essentialisation stratégique comme quelque chose qu'on peut voir comme légitime. Et les femmes de Milan, là j'ai parlé énormément, les femmes des Milan parlent des différences d'une manière beaucoup moins poétique, beaucoup moins indisciplinée, et en parlent d'une manière qui moi je trouve plus qui ouvre moins la possibilité à des doutes si forts par rapport à l'essentialisation.
Oui, ça c'est sûr. Mais enfin, moi je pense que peut-être que là où je suis pas tout à fait d'accord, enfin pas tout à fait d'accord avec toi, c'est le fait que je pense que j'y vois quelque chose d'assez fort justement dans le fait que chez les femmes de Milan, ça ne laisse pas du tout de prise à l'essentialisation, et notamment par le fait que, enfin, dans ce livre, moi ce que j'y ai trouvé d'assez chouette, c'est le fait que la différence sexuelle, c'est avant tout un mouvement, en fait, c'est le fait de se détacher d'un universalisme masculin, et du coup c'est un mouvement qui est principalement négatif, qui est juste le geste de refus de l'universalisme masculin. Et du coup c'est vraiment l'idée qu'il n'y a aucun contenu qu'on peut réellement mettre à l'intérieur de cette différence sexuelle, si ce n'est des contenus très particuliers obtenus par des petits groupes de femmes entre elles, mais qui auraient aucun attribut universel dont on pourrait charger cette différence sexuelle. Enfin, je pense que c'est un point important de la notion de différence chez les femmes de Milan, du moins.
Très bien. Roger, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, juste un petit mot. Je veux dire, moi, je suis très d'accord avec le fait que Carla Lons a été un peu, je dirais, prise par une lecture a posteriori, je dirais, qui a été faite vraiment en Italie par beaucoup de féministes de la différence qui ont un peu, je dirais, prise l'héritage, je dirais, de Carla Lonzi, alors que on pourrait faire une lecture vraiment queer de ce que disait Carla Lonzi, en fait, parce que je suis tout à fait d'accord avec le fait que la notion de différence dans la pensée de Rivolta Femminile et de Carla Lonzi, et en général dans beaucoup de leurs réflexions et d'actions des années 70, était vraiment dans une démarche déconstructive par rapport à la norme qui avait été construite et à la société patriarcale, hétéropatriarcale. C'est important quand même que Carla Lonzi, elle mentionne la matrice hétérosexuelle de la société et même de la société dans laquelle la femme, avec la F majuscule, avait été construite en tant qu'être opprimé et infériorisé, etc. Par contre, le féminisme de la différence, je pense, même au moins, encore une fois, je ne parle pas en tant qu'expert de quelque chose, je parle vraiment en tant que personne, qui est activiste, qui a vécu un peu l'hégémonie du féminisme de la différence en Italie, et ces discours-là sur le fait qu'en fait la différence féminine, c'est quelque chose qui n'est pas jamais décrit en termes positifs, en termes... c'est toujours quelque chose, c'est toujours une espèce de espace vide où on peut mettre n'importe quoi. C'est à la fin un discours un peu flou parce que, en fait, c'est même le fait de construire, de rester dans un dispositif dual où, en fait, la féminité, c'est toujours pas décrite, mais à la fin, c'est quelque chose qui s'est défini dans une structure duale qui, en fait, en réalité, ne laisse pas d'espace à des autres possibilités et ne remet pas en question, en fait, cette dualité qui, après, des années après, plutôt dans les années 90, a été un peu mise en question en tant que dispositif structurel de production, de dispositif structurel du pouvoir dépendant à la fin de la matrice hétérosexuelle de la société. Donc, Non, j'interviens parce que ce discours de la différence négative, c'est un peu toujours ce qui est mis en avance quand on parle de l'essentialisme, du problème de l'essentialisme du féminisme, de la différence. Et à chaque fois, la réponse à l'accusation d'essentialisme et de normativité que le féminisme de la différence porte avec sa notion de différence sexuelle, et cette accusation est refusée avec l'argument que la différence n'est pas jamais décrite en termes positifs. Et à la fin, oui, je pense que les problèmes à la base restent exactement le dispositif dual qui répond sur la norme hétérosexuelle qui n'est en fait jamais remise en question par le féminisme de la différence.
Justement, pour rebondir sur la dualité, je vous propose d'écouter un extrait d'Antoinette Fouque et du coup de revenir dans le contexte un peu français et de l'entendre.
La relation mère-fille telle qu'on nous la présente, telle que la présente l'analyste qui, sans dire un mot, fait la loi, il fait la loi à partir de ce qui s'énonce chez Freud et chez Lacan comme un ordre symbolique. Il n'y a qu'une libido, et elle est phallique. Il n'y a de jouissance que du phallus. Ce ne que me paraît hautement critiquable, contestable, scandaleux. C'est l'énoncé du monothéisme. Il n'y a qu'un dieu et il est mâle. Mais c'était déjà ça dans la démocratie athénienne et dans les religions où Zeus annonçait déjà le dieu unique. Monothéisme, monisme phallique, une seule libido pour les deux sexes. Je pense que le ravage de la relation mère-fille dont rêvait Lacan est un fantasme de toute puissance narcissique, un fantasme malheureusement réalité, et qu'aucune transformation politique, idéologique, sociale, juridique n'est possible si on ne pense pas à ce partage nécessaire des échanges de l'ordre symbolique, puisque d'ailleurs « symbolos » veut dire « deux ». Donc il faut bien qu'il y ait les deux parties qui se rencontrent pour créer un ordre contemporain, un ordre véritablement fécond. Et d'ailleurs, c'était mon idée, à partir du moment où j'ai réfléchi sur le fait d'avoir donné naissance à une fille, du point de vue inconscient, c'est ce qui dynamisait mon travail analytique, aussi bien d'analysante que d'analyste, mais c'est aussi ce qui s'est inventé avec le MLF, c'est-à-dire essayer de penser une homosexuation à la mère et entre femmes, qui n'est pas nécessairement une homosexualité vécue, mais imaginairement, symboliquement, les hommes sont très, très puissants dans leur identité d'homme par l'élaboration de cette homosexuation au père, ou même de cette homosexualité érigée en culture. Tous les grands créateurs, et ne parlons même pas de la philosophie antique de Platon et voilà, du sol philosophique de la civilisation. Cette civilisation est dans un grand malaise parce qu'il n'y a pas de contrepartie. Donc je disais que nous allions faire un MLF non mixte pour accéder par l'affirmation de notre libido, c'est-à-dire de notre force créatrice, de notre force sexuelle et inconsciente créatrice, pour accéder à un monde, je disais, hétérosexué, c'est-à-dire où il y aurait des hommes et des femmes. Ce qui, d'ailleurs, quelques années après, s'est affirmé par la loi sur la parité.
Donc on écoutait Antoinette Fouque, qui a été une des voix éminentes de psychanalyse et politique. Est-ce que, du coup, vous la sentez la filiation entre, justement, les éditions de la librairie des femmes de Milan?
Je te vois faire nom de la tête. Je pense que, pour être honnête, il faut quand même noter deux points communs très rapidement. Il y a tout le contexte de la psychanalyse à l'époque, et du coup le recours dans le livre de Ne crois pas avoir de droit, ça se manifeste par la pratique de l'inconscient. Donc il y a vraiment quelque chose autour de la psychanalyse. Ensuite, il y a aussi un autre point commun, une démarche qui est quand même similaire au niveau de lieu créé pour les femmes. Donc c'est sûr que c'est pas un hasard qu'il y ait la librairie des femmes de Milan et la librairie des femmes de Paris.
Après, malgré tout, je pense qu'il y a quand même des très grandes distinctions. Bon, là, tu me contredisais un peu tout à l'heure là-dessus par rapport à l'essentialisme. Je pense qu'il y a quand même une grande différence sur le recours à des arguments biologiques qu'on va quand même trouver chez Antoinette Fouque, chez Iris Garay aussi. Toutes les histoires d'écriture féminine qui sont vraiment renvoyées à un être-corps dans des arguments très précis de, je sais pas, de libido lié à l'utérus. Enfin, c'est des choses qu'on va pas du tout trouver chez les femmes de Milan. Ensuite, je pense que il y a quand même tout un autre pan qui est totalement absent des femmes de la librairie des femmes de Paris et de psychanalyse et politique. C'est quand même le refus du monde du droit et l'anti-légalisme qu'on va vraiment trouver comme une position très forte dans Ne crois pas avoir de droit. C'est à partir d'une conception, je pense, un peu plus forte de la différence qui va renvoyer tout le monde juridique et légal à un univers symbolique masculin. Et du coup, le refus de cet univers symbolique masculin signifie immédiatement qu'il faut aussi se détourner du droit comme un moyen d'acquisition de liberté pour les femmes. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose que font les femmes de Milan en propre.
Je vous propose d'écouter un extrait musical pour faire une petite pause. On reviendra là plus tard.
La musique qu'on va entendre, là, c'est Noédon, et donc Nos Femmes, une musique de Padoue cette fois. Donc on passe de Milan à Padoue, et là, pour le coup, c'est un collectif qui est plutôt légaliste, puisqu'on l'entendra dans la musique, elle revendique un salaire pour les femmes au foyer. Du coup, voilà, encore une fois, très situé à la fois dans l'espace et le temps.
Per contenere bambini e seni per allattarli. Un corpo che è nostra arma, è nostra vergogna, venduto dappertutto. Un cervello che vede in fondo alla realtà, mai bersagliato da mille comandi. Un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia. Un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia. La 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 la, 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 la 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 la. Ci guardiamo, ognuna di noi conosce la vita dell'altra. Cominciamo ad essere in tante a voler la nostra libertà, il coraggio di combattere contro la normalità, la forza di scegliere la vita che vogliamo, il potere di essere come vogliamo.
On va maintenant parler d'un autre aspect de la pensée de la différence sexuelle. En fait, on n'a pas trop évoqué jusque-là cette idée que dans ce livre et dans d'autres textes qui ont été publiés par la librairie des femmes de Milan, il y a cette volonté de réintroduire aussi de la différence entre les femmes et de refuser que nous serions toutes égales ou que nous rassemblions derrière le terme de la femme opprimée, par exemple. Et du coup, je voulais savoir si vous pourriez un peu nous en dire plus là-dessus, et notamment introduire un concept qui est assez fort dans le texte, qui est celui de l'affidamento.
Alors l'affidamento, c'est un terme qui peut se traduire de différentes manières. C'est à la fois le fait de se fier, de se confier et de faire confiance. Et donc une des définitions qu'on trouve dans le texte à propos de ce concept d'affidamento, donc de ce rapport de confiance, Donc je lis, c'est une citation. Le rapport de confiance est cette alliance entre une femme plus vieille et une femme plus jeune, dans lequel être vieille signifie avoir conscience de l'expérience de l'échec, et être jeune, avoir en soi des prétentions intactes, l'une et l'autre entrant en communication pour se renforcer à l'égard du monde. De fait, il se peut que les deux états coexistent chez la même femme, laquelle se trouve ainsi être vieille et jeune en même temps. Donc là, c'est un exemple dans cette citation où le rapport de verticalité qui donne de la force est entre une femme plus jeune et une femme plus vieille, mais en fait, elle dit tout le temps, tout au long du texte, que c'est pas seulement dans ces rapports-là, avec une différence d'âge, qu'il peut y avoir un rapport d'affidamento, mais aussi dans plein d'autres situations. Et à un autre moment dans le texte, bon, c'est pas les mots exacts, mais il y a aussi une autre définition de l'affidamento qui est le fait de se fier à quelqu'un qui donne de la force à tes désirs. Et donc c'est quand même une formulation assez belle et qui correspond tout à fait à l'idée de tracer sa propre voie plutôt que de faire la liste des oppressions, et pour ça d'avoir besoin de se faire confiance et de se donner la force entre femmes.
Ouais, moi je rajouterais peut-être juste en termes une dimension un peu plus large, qui n'est pas simplement le fait de se fier à quelqu'un enfin qui est proche et qui existe physiquement, mais il y a aussi derrière cette idée d'affidamento même un rapport un peu à l'histoire, par exemple à la généalogie féminine, le fait de aussi de prendre pour modèle d'autres femmes dans l'histoire, par exemple. Ça serait un exemple d'affidamento un peu élargi, mais qui appartient vraiment en propre à leur pensée aussi.
Est-ce que ce point de vue finalement assez, enfin ce concept-là de relation entre femmes, il est pas aussi un peu critiquable dans le sens où finalement on va pas critiquer les privilèges des unes des autres, mais plutôt finalement quelque part les figer, les embellir quelque part. Voilà, aujourd'hui on est plutôt dans une logique de déconstruction des privilèges. Essayer de voir comment on peut essayer de pas trop dominer les autres, de pas trop empiéter sur leur liberté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça, quoi? Comment est-ce qu'on peut conjuguer ça aujourd'hui?
Je précise juste que, en fait, on parle de tout ça parce qu'il y a quand même cette idée que des femmes qui auraient une position sociale, économique, culturelle plus élevée, seraient en gros les guides auxquels on se confierait, ou enfin je trouve qu'il y a ce sous-texte là en fait qui pour nous est problématique, enfin en tout cas qui nous a fait beaucoup réfléchir, quoi, de comment en gros comment penser les différences d'ordre un peu objectif, même si j'aime pas trop ce mot là mais qui relève des conditions de vie dans lesquelles les femmes sont placées, quoi.
Je pense que c'est le problème que vous soulevez là, c'est vraiment un des forts écueils du texte, même si il y a pas, enfin à mon sens, d'obligation à le lire de cette façon-là. Je pense que une des réponses qu'on peut donner à ça, c'est le fait qu'il faut pas que cette idée d'affidamento soit détachée d'une critique politique plus large. Donc, c'est un peu ce que je disais au début par rapport au fait que ce texte s'inscrit dans une position, d'autonomie. Et c'est sûr que, ces différents privilèges doivent être conscients et, toujours en arrière-fond au moment où l'affidamento peut être pratiqué. Enfin, je vous avais raconté l'autre soir une anecdote quand même qui en effet, va plutôt dans votre sens, même si je pense qu'il faut, c'est pas pour autant qu'il faut lâcher le concept d'affidamento, mais il faut faire attention. Mais c'est, notamment au moment où leur texte est sorti aux femmes de la librairie des femmes de Milan, il y a notamment des femmes d'entreprise qui les ont appelées en disant on vous remercie, votre concept est vraiment génial, nous ça nous permet de gravir tous les échelons dans l'entreprise. Mais c'est sûr que c'est un des écueils, mais en même temps, il y a à la fois cette idée d'une critique politique plus large et aussi d'une position de confiance. Chiara, tu disais aussi souvent que peut-être qu'il y a une façon aussi de déconstruire ces privilèges, c'est aussi
de partir de l'assumption qu'ils sont là, et de partir de ce qui est sur la table, quoi, parce que comme on a dit tout à l'heure. On voit comme un gros péril tout discours qui soit égalitaire d'une manière qui correspond pas à la réalité. Du coup, l'effet de cibler les privilèges, c'est à mon avis c'est un point de départ nécessaire.
si l'idée c'est de les retravailler d'une manière positive. Mais aussi, moi, je m'arrête pas trop sur cette problématique de les lire d'une manière qui fige les privilèges économiques, sociaux, etc. Parce que, en fait, dans les passages qui m'ont touché dans les livres, et il y en a énormément, l'affidamento est décrit comme quelque chose qui se passe d'une manière mobile dans les situations de vie. Du coup, les problèmes se posent au moment où on veut voir ça au niveau que, justement, économique. Mais si on pense à l'affidamento dans des situations de vie, ça peut être que moi je reconnais dans une amie, dans une fille, dans une femme, quelque chose que je vois pas en moi et qui peut aller des capacités organisatives jusqu'à un talent que j'ai pas. Et en reconnaissant que moi j'ai pas ça et qu'une autre l'a, j'ai choisi de faire affidamento sur l'autre.
Donc finalement, il y a cette idée aussi de réintroduire un peu de l'estime entre nous et de... Bon, ce serait difficile de conclure là-dessus parce qu'en fait, on arrive quand même bientôt à la fin de l'émission et on aurait aimé aborder aussi d'autres questions et notamment la place de ce féminisme, de la différence au sein des féminismes italiens et de comment le texte a été reçu, critiqué, réapproprié par d'autres féministes. Et bon voilà, je voulais donner un peu la parole à Roger qui est avec nous ce soir et qui, de ton point de vue d'activiste justement, tu parlais tout à l'heure d'une certaine hégémonie qu'avait introduit les femmes de Milan dans cette pensée de la différence sexuelle comme finalement le féminisme absolu, quoi, d'une certaine manière. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus?
Bah oui, et juste un petit mot sur l'affidamento, je pense qu'il y a quand même une relation avec la question des féminismes au pluriel. C'est que je pense que ce qui a été beaucoup critiqué de l'affidamento, c'est pas le fait de se faire confiance entre femmes, etc. Mais le fait que l'idée à la base c'était difficile de diviser l'idée d'une différence de statut, de pouvoir entre deux femmes et l'idée de l'affidamento. Parce que l'idée de l'affidamento c'était justement construit dans l'idée que il faudrait construire le symbolique féminin parce que le féminin a été toujours caché par l'histoire, opprimé par le symbolique masculin, etc. Donc, à la fin, c'est justement cette différence de pouvoir qui est à la base de l'affidamento. Donc, même si ça, c'est vrai que c'est pas assez simpliste de l'affidamento, c'est pas la relation entre la dictatrice et la pauvre femme qui ne comprend de rien, mais à la fin c'est difficile, je pense c'est ça qui a fait problème parmi des autres féminismes. Et justement, pour revenir à la question de la pluralité du féminisme, la question ça a été un peu que à partir des années 80 plus ou moins, le féminisme de la différence, même à travers cette opération de relecture de l'histoire du féminisme des années 70, c'est un peu proclamé comme le féminisme en Italie. En faisant une opération un peu de déqualification des autres féminismes, par exemple, je pense, dans la même année, début des années 80, il y avait le lesbo-féminisme qui était en train de se construire, qui avait justement à son cœur la critique de la matrice hétérosexuelle de la société. Et dans les années à venir, tout le, par exemple, le féminisme queer ou le transféminisme aujourd'hui, qui justement critique à la base l'idée de la différence sexuelle et de la binarité, du binarisme de genre en tant que dispositif de pouvoir en soi. Et ce type de critique a été un peu minoritarisé, je dirais, par le féminisme de la différence qui c'est un... Je ne veux pas du temps.
Ouais, c'est un peu frustrant, mais heureusement pour nous, on a d'autres espaces de discussion qui vont s'ouvrir dans les semaines à venir et qui seront peut-être moins cantonnés par le temps qu'une émission de radio d'une heure. Et du coup... je voulais vous proposer de conclure cette émission parce que le temps nous presse et que du coup vous avez 2-3 infos en termes d'agenda aussi à nous communiquer, notamment un événement qui arrive ce samedi, Roger, en soutien à un espace transféministe et queer de Rome.
Oui, en fait il y aura 2 événements parce que samedi soir il y aura un queer food. Qui sera un bouffe, qui offrira un bouffe à soutien de Kanye Scholt, qui est un collectif transféministe qui gère un squat transféministe justement à Rome. Et les jours après, il y aura une discussion à la Petite Maison à 15h autour d'abord de la situation en Italie, parce que à ce moment, il y a des remobilisations autour de la question de la violence masculiniste, de la violence envers les femmes et de la violence hétéropatriarcale. Donc, il y a eu des grandes manifestations. Donc, on aura la possibilité de parler de ce qui se passe en Italie. Et plus, la deuxième partie de la discussion sera autour de la question de comment, pourquoi... libérer des espaces féministes et transpédéguines et comment faire pour les garder, les construire, etc.
Ok, donc ça ce sera ce week-end à Paris. On vous mettra toutes les informations, les dates, les lieux d'événements sur notre blog et sur notre Facebook. Et pareil, les invités qui sont avec nous ce soir pourront aussi vous communiquer à travers notre blog toutes les dates des événements et des discussions qui vont s'ouvrir autour de la parution de Ne crois pas avoir de droit. Je déteste faire ça, mais il faut qu'on y aille. Donc à très bientôt. Bonne soirée.
Et puis voilà, reste à tout le monde de construire chacun sa voix, de trouver son féminisme, c'est féminisme, et puis de continuer tout et tous ensemble. Chi la sfiorerà? Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quelle corco e non ci prova più. Tango della femminista. Della ribellion, col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, za. Una guardata, una bruciata, quello è corco e non ci prova più. Aritango della femminista, tango della ribellion, con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va, fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più?